Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Mercredi 19 novembre 2025, il est 6h avant minuit sur Syllab. Merci de nous rejoindre pour notre rendez-vous d'info locale quotidien. Si vous n'avez pas déjà l'info, je vous la redonne. Syllab vous offre une place pour le spectacle An Immigrant Story de Wanjiru Kamoyou. Le spectacle a lieu le mercredi 3 décembre prochain à 19h au Triangle, en duo avec une danseuse interprète en langue des signes. Française, la chorégraphe se fait messagère d'une histoire de l'humanité. Sa mission dansante, révéler des frontières et les faire tomber. Artiste associée du CCN de Nantes, Wanjiru Kamoyou mêle danse, théâtre et chant pour évoquer son propre parcours migratoire, mais aussi le récit d'autres personnes. Pour jouer et pour gagner, bien sûr, vous aurez besoin d'un mot de passe. Autour de la table, je vous laisse dire le mot de passe.
C'est quoi ?
LSF,
c'est LSF.
Ouais, comme langue des signes française, car ce spectacle de danse est directement traduit en mouvement et en LSF. Donc rendez-vous sur c-lab.fr pour entrer le bon mot de passe et être tiré au sort. Tout de suite, le flash d'Estelle.
Nuit d'enfer, lueur de paix. Kiev joue sur deux fronts. Après une nuit de bombardements russes, l'Ukraine est placée en état d'alerte aérienne. Zelensky évoque sur X 470 drones et 48 missiles, dont un tir balistique. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières survenues sur Ternopil, à l'ouest du pays depuis 2022. Au moins 25 morts, dont 3 enfants et 75 blessés, selon un nouveau bilan du service d'état d'urgence ukrainien. Malgré les bombardements intensifs, l'espoir d'une trêve demeure. Zelensky est arrivé ce matin en Turquie pour relancer les pourparlers de paix. Le premier procès des massacres intercommunautaires s'est ouvert hier à Alep, en Syrie. Il fait suite à une enquête de l'État sur les affrontements de mars entre forces gouvernementales et partisans de Bachar al-Assad. Les 14 personnes comparaissent pour la première fois devant la justice syrienne. Parmi les détenus, 7 proches de Bachar al-Assad accusés d'attaques contre les forces gouvernementales, les 7 autres détenus sont des membres des forces de sécurité du nouveau gouvernement, poursuivis pour meurtre prémédité. L'audience a été suspendue et reprendra le 18 décembre pour les accusés de sédition et le 25 décembre pour les membres des forces gouvernementales. Eau, électricité, WC, lavabo et une taxe foncière qui déborde. En 2026, 7,4 millions de logements verront leur taxe foncière augmenter à cause d'une mauvaise estimation. Annoncée hier soir par Bercy, la réforme prend en compte les 6 critères de confort jusque-là parfois ignorés. Résultat, plus 63 euros en moyenne par logement, soit 466 millions d'euros supplémentaires pour les collectivités locales. Cette réforme serait cosmétique pour Corinne Joly, présidente du site immobilier Particulier à Particulier. Aujourd'hui, sur France Info, elle interroge. Est-il légitime de maintenir une taxe sur le fait d'avoir des WC dans son logement ou le fait d'avoir de l'eau courante ? Les riches n'ont jamais été aussi riches. Hier, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, ou INSEE, a publié un rapport sur les ultra-riches. Alors que le Parlement débat toujours sur le budget, ce rapport pourrait marquer un nouveau tournant dans le processus. L'AFKEN nous aide à décrypter tout ça.
En effet, en 20 ans, le revenu des foyers ultra-riches a plus que doublé, de quoi rendre furieuses et furieux les défenseurs et défenseuses de la taxe Zucman. L'étude de l'INSEE s'appelle donc « Portrait social de la France ». C'est un ouvrage qui rassemble 3 analyses des hauts et très hauts revenus du patrimoine en France.
Mais qui sont ces fameux ultra-riches ?
Alors oui, commençons déjà par définir qui est ultra-riche. En fait, pour son étude, l'INSEE a ciblé les 0,1% des plus hauts revenus de France. En 2022, ils étaient 40 700 foyers. Côté critères, une seule condition à remplir pour rejoindre les rangs d'ultra-riches selon le rapport de l'INSEE, avoir déclaré plus de 463 000 euros en 2003. En réalité, la moyenne de ces foyers se situe plutôt autour des 1 million d'euros par an en 2022. Très concrètement, le revenu annuel moyen des foyers à très haut revenu a connu une croissance annuelle moyenne de 4,7%. L'INSEE prend donc en compte tous les revenus imposables, mais aussi les prestations sociales déduites des impôts directs et la taille du ménage.
Des profils ressortent particulièrement, non ?
Tout à fait. D'abord, la moitié de ces foyers résident en Île-de-France, avec un âge moyen de 56 ans. Parmi ces 0,1% de hauts revenus, on retrouve surtout des patrons, des héritiers, des avocats, des mannequins, mais aussi des artistes et des sportifs.
Mais alors en quoi la publication de ce rapport peut choquer ?
Eh bien, pour réaliser son étude, l'INSEE a fixé une limite temporelle de 20 ans, soit de 2003 à 2022. Ce qui frappe, c'est que pour les 25% des foyers français les plus modestes, l'augmentation des revenus est de 24% en 20 ans. Pour les 0,1% des foyers les plus riches, c'est plus 119% en 20 ans. Ça représente une hausse 2,6 fois plus forte que pour le reste des foyers. Même si la crise de 2008 ou celle du Covid-19 a pu impacter les plus hauts revenus, le fossé est gigantesque entre les populations françaises modestes et ultra aisées. Mais alors comment expliquer ce phénomène ? Pour l'INSEE, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017 a marqué l'envolée des plus hauts revenus, en cause notamment l'imposition des revenus du capital au prélèvement forfaitaire unique, soit PFU, la flat tax. Elle a permis aux foyers ultra riches de gagner plus. On retrouve également la suppression de l'impôt sur la fortune, ou ISF, comme tournant bénéfique à ces foyers. En fait, sur ces dernières décennies, le taux d'imposition sur les plus grosses fortunes ont clairement diminué. Enfin, les plus hauts revenus ne dépendent généralement pas d'un salaire unique. La plupart de leurs revenus viennent de placements financiers, de biens immobiliers et d'entreprises qu'ils ou elles possèdent. Et ce sont ces revenus qui augmentent plus vite, puisque depuis plusieurs années, la bourse ou l'immobilier grimpe en flèche. Il faut comprendre que les 0,1% des foyers les plus riches en France ont déjà du capital. C'est de cette manière qu'ils peuvent se permettre d'acquérir plus d'actions, de placements, donc de générer plus de capital. C'est donc tout cela qui explique l'écart entre les revenus des foyers moyens ou modestes et ceux de très hauts revenus.
Merci Lafken pour ce décryptage. Dans ce même rapport, il est possible de retrouver deux dossiers qui abordent les thèmes des conditions de travail et une quarantaine de fiches synthétiques dressant le panorama social de la France. À lire donc de suite sur le site de l'INSEE. Public contre privé, la guerre des médias continue devant la justice. Hier, une source proche du dossier a confirmé à l'AFP que France TV et Radio France ont porté plainte pour dénigrement contre CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche. Pascal Pro a réagi hier soir dans l'heure des Pro 2. Il affirme que si CNews et Europe 1 disent du mal de l'audiovisuel public, c'est bien souvent en réponse à des attaques. La plainte a été déposée la semaine dernière devant le tribunal des affaires économiques, selon le Figaro. Le conflit remonte à septembre avec l'affaire Le Grand Cohen, dans laquelle deux journalistes de Radio France ont été filmés en plein repas d'affaires avec des membres du Parti Socialiste. Radio France et France Télévisions dénoncent une campagne de dénigrement systématique orchestrée par les médias de Bolloré. En 1977, on découvrait Star Wars et ses fameux sabres laser. Et vous savez ce qui est plus cool que de regarder Obi-Wan et Anakin se battre ? Apprendre à vous battre avec un sabre laser. Si professeur...
T'es née en 77, Eva ? Pardon, excusez-nous, on discute.
Il n'y a pas de problème. en même temps que la découverte du sabre laser. Deux formes, deux incroyables personnes sont arrivées. Donc, six professeurs, 40 adhérents et adhérentes à Rennes, la Force Académie propose trois cours de sabre laser par semaine. Pour l'association, pas de bon ou de mauvais côté de la Force. Le seul mot d'ordre, inclusivité. Entre rire et combat, Lafken s'est rendu à un entraînement pour mieux comprendre comment les associations permettent de pratiquer des passions, même marginalisées.
Aujourd'hui, on va travailler sur une part à tête, mais c'est un exercice.
Aucune toge de Jedi. Pourtant, les sabres de lumière cognent.
Un combat, ça se passe en trois rondes. Le combattant a 5 points de vie.
Pierre-Jean a 37 ans et depuis 6 ans, il pratique le sabre laser. Aujourd'hui, top 13 européen, Pierre-Jean nous explique les règles de ce sport.
Du coup, l'idée, c'est de faire baisser les points de vie de l'adversaire, qu'ils arrivent à zéro, et d'en sauvegarder le maximum. Et du coup, en fonction de là, on va toucher, on va décompter des points de vie. Donc l'idée, c'est de faire 5-0.
protège articulation, masque d'escrime, coquille, les équipements ne sont pas à négliger, d'autant plus que la matière des lames est la même que celle des boucliers de CRS, un investissement qu'Esther n'hésite pas à faire. À 24 ans, elle est classée 20e en Europe.
Moi, j'aime pas Star Wars à la base. J'y suis allée quand même. Et j'ai kiffé, genre franchement c'était trop bien. Tout le monde a sa place et il n'y a pas de catégorie. C'est un sport où tu peux être qui tu veux, même dans le combat. Tout le monde est mis en avant pareil.
Aucune catégorie d'âge, de poids ou de genre donc. Et pour Esther, peu importe les regards, sabre laser rime avec passion, ouverture et diversité.
Il y aura toujours des clichés dessus. Et en vrai, je pense que c'est un tri pas plus mal.
C'est un sport où le jugement n'a pas vraiment sa place, ni dans le public, ni dans le sport.
C'est ça. Quand j'en parle à mes collègues ou à ma famille et tout, je ressens pas de jugement, je ressens plutôt de la curiosité et de l'incompréhension pour certains. Moi, j'aime bien le fait que ce soit un sport niche.
Un sport qui tire sa force de l'authenticité, mais pour Adeline Kolkanap, présidente de la Force Academy, défendre l'originalité dans le milieu associatif, ça n'est pas toujours facile.
On essaye justement d'obtenir des subventions pour les salles. C'est une tannée, on le sent, parce que la mairie, elle s'en fiche de nous. Pour peu que vous soyez un petit peu à côté, trop original, trop... C'est toujours pareil, hein. Le cadre de la société, hein, bah, dès qu'on en sort, il faut se débrouiller tout seul et il faut prendre les chemins de traverse. Mais il y a un de ces quatre, on se fait tout seul.
Merci Lafken et nous souhaitons bon courage à tout le groupe Force Academy du lundi. Spécialisé
que la force soit avec vous.
Spécialisé en compétition, l'équipe d'Esther et Jean-Pierre s'envole ce week-end pour le UK Open de Londres. Bonne chance. Un flash info qui se clôt sur deux notes musicales et locales, puisque la Starac a eu du flair. Six choristes du groupe Voice Harmony de Rennes ont été sélectionnés pour participer à l'émission. Ils rejoindront 1000 choristes venus de toute la France sur le plateau vendredi soir. Vous pourrez les retrouver le 10 janvier au Glaz Arena de Cesson-Sévigné pour le concert 15 000 voix pour les légendes du rock. Amateurs de vinyle, à vos platines. La deuxième édition de la convention Vinyle de l'Ermitage se tient dimanche 23 novembre à l'espace de Mahout. Les vendeurs seront accueillis dès 8h et les chineurs à partir de 9h. L'événement se terminera aux alentours de 17h. Au programme, vinyle, CD, DVD, mais aussi café et galettes saucisses pour accompagner vos découvertes musicales.
Merci Estelle, à la semaine prochaine pour un prochain flash.
À la semaine prochaine.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et c'est l'heure de l'interview avec Romane aux commandes ce soir. Aujourd'hui, nous recevons Gaëlle Debeau, les cheveux attachés en chignon. Elle est maîtresse de conférences en littérature générale et comparée à l'Université Rennes 2 et co-organisatrice du Festival Transversal. Mais on retrouve aussi Chloé Legrand, les cheveux relevés avec une pince. Elle est co-présidente de cette 15e édition. Donc, le Festival Transversal revient cette année autour du thème « Forêt, forêt, forêt ». Un parcours interdisciplinaire qui mêle littérature, art, recherche et création étudiante, un événement qui s'inscrit aussi dans le cycle Verdoyon, dédié aux enjeux des transitions environnementales. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter le festival pour ceux qui ne le connaissent pas ?
Bah, Chloé, je peux commencer si tu veux et puis tu peux compléter. Alors le Festival Transversal, c'est un festival qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années puisque c'est la 15e édition. Et c'est un festival qui a été créé par des collègues du département des lettres à l'époque. Le but étant d'avoir une proposition culturelle qui émane qui émane d'un département et d'un laboratoire de recherche, mais qui soit aussi menée et construite par et avec des étudiantes et des étudiants autour chaque année d'un thème qui va changer et qu'on va explorer d'abord par la littérature et puis aussi en allant voir d'autres formes d'art. Donc on travaille chaque année avec Ciné Tambour par exemple pour des projections de films, on travaille avec le service culturel pour des spectacles notamment qui relèveraient du spectacle vivant, du théâtre, de la performance, etc. etc. Voilà, donc c'est un festival qui est un vrai festival avec des vraies propositions. On peut venir voir des tables rondes, des rencontres, des événements scientifiques, des spectacles, et puis c'est aussi je dirais un espace d'expérimentation pédagogique et d'initiative pour les étudiantes et les étudiants qui participent à ce que c'est que la gestion de projets culturels, la planification et la logistique d'un tel projet, et puis tout ce qui est de l'ordre aussi de la programmation autour du thème.
Donc on l'a dit, c'est la 15e édition des Transversales. Qu'est-ce que cette étape représente pour le festival et comment vous avez souhaité la marquer ?
Alors je laisserai peut-être Chloé juste après parler du thème, puisque c'est toi qui as proposé le thème. Mais alors, c'est vrai que cette édition, elle est un peu particulière parce que... alors moi, ça fait 9 ans que je travaille avec différentes personnes pour l'organisation du festival et c'est ma dernière édition. Après, je vais passer la main peut-être. Il est pas certain que le festival continue ou continue sous cette forme-là l'année prochaine. Tout dépendra effectivement des forces en présence et au niveau de l'association étudiante et puis au niveau des collègues du département des lettres ou d'autres départements qui auraient envie de reprendre le projet. Donc si ça se trouve, cette 15e édition, c'est aussi un peu la dernière sous cette forme-là ou la dernière pour un petit temps. Enfin, voilà, donc c'est une raison aussi pour peut-être venir et ne pas manquer ce festival.
Et donc le thème cette année, c'est forêt, 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 c'est ça,
c'est forêt, 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 ça sonne un peu comme une obsession de la forêt. Et ça part de ça, j'ai proposé ça en fait à la fin du festival de l'année dernière, qui portait sur l'océan cette fois, sur la mer.
Ouais, les deux.
Les deux. Et il se trouve que Gaëlle étudie beaucoup une littérature qui tourne autour du thème de la forêt, une nature contemporaine. Comme on discutait d'une éventuelle dernière édition, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'explorer à fond ce thème-là. Aussi parce que c'est un thème que moi, j'affectionne particulièrement et j'étudie aussi beaucoup une littérature contemporaine environnementale qui s'attache à décrire tous les écosystèmes. Ça me parlait totalement en fait.
Et donc le festival s'inscrit dans le cycle Verdoyon consacré à la transition environnementale. Comment ces deux événements sont liés ?
Alors le cycle Verdoyon, c'est un cycle qui revient une fois tous les 2 ans et qui est porté surtout à Rennes 2 par les bibliothèques, la bibliothèque centrale et voilà, les collègues de la bibliothèque, et qui chaque année porte effectivement sur des thèmes environnementaux, sur la question des transitions comme tu l'as dit. La période est souvent la même que celle du festival transversal. Alors les années passées, on avait parfois un petit événement en collaboration, mais on n'arrivait pas forcément à croiser nos programmations parce que les thèmes s'y prêtaient pas forcément. Alors là, cette année, c'est extrêmement convergent. Donc c'est vrai que le mois de novembre à Rennes 2, c'est vraiment un mois forêt. Si vous allez à la bibliothèque, bibliothèque centrale, vous avez tout un tas de tables thématiques et d'événements croisés où en fait, ça veut dire que la BU a pris, ou le service culturel, ont pris en charge l'organisation concrète de tel ou tel événement. Par exemple, la rencontre Pure Café qui a lieu le mercredi du festival, donc qui a eu lieu aujourd'hui, ce midi. Ça veut dire que c'est la BU qui organise tout ça, qui fait venir la collègue, qui lui écrit, etc. Et puis nous, du côté du festival, c'est ce qu'on a fait avec Chloé, c'est une rencontre qu'on a animée toutes les deux, et avec des étudiantes, on a préparé la rencontre, l'entretien avec l'invité, etc. Donc c'est comme ça un peu que se jouent ces collaborations pour essayer de maximiser aussi nos propositions.
Et comment vous avez choisi les deux artistes associés à cette année, Elsa Amsalem et Juliette Thomas ? Qu'apporte-t-elle au thème de la forêt ?
C'est la première fois qu'on fait ça, d'avoir des artistes associés. On s'est dit que c'était une façon aussi de donner une visibilité autre à ces artistes-là et à leur travail. La chose s'est faite un peu de deux façons. Elsa Amsalem est en fait en résidence avec son collectif qui s'appelle Atelier des Possibles et elle travaille dedans avec un auteur de roman qui s'appelle Martin Mongin, dont je vous recommande la lecture, c'est vraiment super. Donc ils travaillent tous les deux à un projet qu'elle a, un projet de théâtre in situ dans la forêt, qui est la suite d'un travail qu'elle a déjà entamé autour de la quête de ses propres racines. Le service culturel de Rennes 2 travaille avec Elsa Amsalem et Martin Mongin pour les accompagner sur la création de ce projet, et notamment ils ont été pour la première semaine de novembre en résidence à Rennes 2. Ils sont présents pendant le festival pour un atelier d'écriture, pour une table ronde. Comme ce projet est vraiment, ça s'appelle Ma Forêt ou La Forêt, son projet pour l'instant, à Elsa Amsalem. Donc vraiment, c'était très central par rapport à notre thème. C'est pour ça qu'on a souhaité l'associer vraiment très directement à notre programmation. Et puis Juliette Thomas, c'est quelqu'un qui travaille avec le Festival Transversal depuis des années et des années qui chaque année fait avec nous, en fait, anime un atelier d'écriture. L'année dernière, elle avait déjà aussi présenté une performance poétique et littéraire. Et en fait, Juliette Thomas est autrice, poétesse, thèse et elle travaille à titre personnel sur la question du vivant, de la relation au vivant. Elle a tout un projet au long cours qu'elle mène depuis plusieurs mois et années même sur la forêt. Donc on lui a proposé une sorte de carte blanche pendant le festival. Donc elle va nous proposer une performance, elle anime un atelier d'écriture et elle sera présente également pour une table ronde.
Donc elle anime l'atelier Écrire vivant qui invite les participants et participantes à imaginer de nouvelles façons d'habiter le monde. Qu'espérez-vous qu'ils et elles découvrent en se prêtant à cette expérience d'écriture ?
Alors peut-être que là j'ai envie de passer la parole à Chloé parce que Chloé tu écris aussi.
Ouais.
Et je sais pas si toi tu... Enfin si, je sais que tu as déjà participé à des formats de ce type-là, donc qu'est-ce qu'on en retire ?
Ce qu'on en retire, je dirais deux choses déjà. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, même quand on a une toute petite partie d'écriture ou pas du tout, quand on a envie de s'essayer, qu'on a envie de se tester, de découvrir des nouvelles choses et d'être accompagnée, parce que Juliette, elle va très bien accompagner chacun des participants et participantes. Et un atelier d'écriture, c'est aussi une aventure collective. Et en fait, on fait des chouettes rencontres à chaque fois. On se tire les uns les autres, on se lit les uns les autres, on s'écoute vraiment. Et on repart avec ces textes, mais on repart aussi avec des fragments des textes des autres. On repart potentiellement avec des amitiés aussi.
Et il y a d'autres ateliers comme celui de traductologie autour d'un extrait de Wild Houses. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cet événement ?
Alors ça c'est un peu une première aussi. On a souhaité inviter Charles Bonneau qui est enseignant-chercheur en langue et littérature anglaise et traducteur également à côté, de traducteur de littérature anglaise. Et en fait on s'est dit que travailler les textes littéraires, c'était pas forcément seulement entendre la parole des auteurs et des autrices, même si c'est extrêmement important bien sûr. C'était pas forcément non plus seulement participer à des ateliers de création pour s'essayer à cette écriture littéraire, mais c'était aussi voir comment on pouvait aborder la littérature étrangère, et notamment la littérature étrangère en tant qu'elle est traduite dans notre propre langue. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette transition-là, et comment est-ce que finalement les mots de la forêt passent, transitent d'une langue à une autre. Donc du coup, dans cet atelier, Charles Bonneau, il va d'abord nous faire une petite présentation, on va dire, théorique de son travail et des enjeux de la traduction dans l'absolu. Et puis ensuite, là je peux vous le dire parce que j'ai préparé les textes, je les ai récupérés à la reprographie ce matin, on a un extrait de texte en langue originale, la traduction que Charles Bonneau a proposée qui est éditée en France, et puis il va revenir avec nous sur des points qui lui ont posé problème. On va réfléchir ensemble à comment on aurait pu traduire autrement, quelles sont les différentes pistes. Et donc c'est aussi une façon de travailler la matière littéraire et esthétique, mais en se posant un peu d'autres questions. Voilà, donc on voulait proposer un temps un peu différent cette fois-ci.
Il y a aussi des rencontres dans cette programmation des transversales. Vous invitez Lune Villemain pour parler de son roman Border la bête. Pourquoi souhaitez-vous mettre en avant ce livre en particulier ?
Je ne sais pas si toi tu l'as lu, Chloé, son roman ou pas?
Non,
encore.
Pas encore.
Alors Lune Villemain, c'est un... Ou Villemain, je ne sais pas trop comment dire. Il faudrait que je lui demande le jour J. C'est une autrice qu'on invite dans le cadre d'un partenariat avec le Festival Étonnant Voyageur, donc qui est ce grand festival de littérature à Saint-Malo qui a lieu chaque année le week-end de la Pentecôte, donc à la fin du printemps. Cette idée de rencontre, elle est issue d'une collaboration en particulier avec Mona Journeau qui travaille à Étonnant Voyageur, ou qui est aussi très intéressée par cette thématique de la forêt. Donc j'ai pu échanger avec elle, et on avait fait au début de l'été elle m'avait proposé une sélection de 5 ouvrages à lire pendant l'été pour qu'on voit un peu qui on aurait envie d'inviter dans cette rencontre croisée. Et en fait on est toutes les deux tombées d'accord directement sur l'ouvrage de Lune Villemain, parce que Border la bête, c'est un roman qui se passe intégralement dans la forêt, dans une forêt du nord du continent américain, donc au Canada, ce qui est le cas de beaucoup de romans contemporains sur la forêt dont il sera question dans le festival également. Et par ailleurs, Lune Villemain, c'est quelqu'un qui a l'air très curieuse et enthousiaste à l'idée de participer au festival, à l'idée de pouvoir échanger avec des étudiantes et des étudiants, puisque ce sont des étudiantes principalement qui vont mener l'entretien. Elle sera présente dès le jeudi pour le festival. La rencontre a lieu le vendredi et elle sera suivie d'un temps de dédicace aussi avec la librairie La Rencontre. Donc voilà, c'est un... Border la bête, c'est vraiment un roman qui... qui est très, révélateur, oui, si on veut, de la façon dont une certaine littérature contemporaine va traiter la question de l'environnement et du vivant comme non pas comme un décor ou comme un cadre dans lequel faire se dérouler des actions, mais vraiment comme une entité à respecter, à approcher par le cadre du langage et de la littérature, mais qui va toujours un peu nous échapper également. Donc c'est une vraie expérience de lecture, ce texte.
Il y a aussi du cinéma dans cette programmation, avec la soirée Ciné-Tambour, qui propose deux films, La Harpe de Birmanie et Tropical Malady. Qu'est-ce que le choix de ces deux œuvres apporte à cette exploration de la forêt?
Alors, je n'hésite pas à rebondir, Chloé, si t'as envie. Mais alors, moi, je dirais, donc là, vraiment, la soirée Ciné-Tambour, c'est l'association Ciné-Tambour qui fait des propositions. Donc, on a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes du Festival Transversal vont rencontrer les étudiantes et étudiants de l'association Ciné-Tambour à un moment dans le printemps. Et ensuite, les étudiantes et étudiants de Ciné-Tambour réfléchissent, visionnent des films, etc. Et font une proposition. Donc, nous, on n'a pas du tout la main sur la programmation des films. Mais c'est tant mieux, parce que chaque année, c'est super. Évidemment que Ciné-Tambour, ils sont beaucoup, beaucoup plus aguerris que nous en termes de connaissances cinéphiliques. Et alors là, je dirais que cette année, l'enjeu de ces deux films-là, c'est de venir un tout petit peu décentrer les questionnements, parce que on va dire que la forêt qu'on explore dans la plupart des autres événements, c'est la forêt qu'on connaît en France ou qu'on connaît, on va dire, dans l'hémisphère nord, la forêt tempérée, éventuellement les forêts un peu du nord de l'Europe ou du nord des États-Unis, du continent américain, du continent nord-américain, donc des forêts plus de conifères avec de la neige, etc. Mais là, ces deux films, en fait, se situent tous les deux sur le continent asiatique, et donc, en fait, donnent à voir une autre forêt. Une forêt un peu différente, et notamment la forêt tropicale, et donnent à voir aussi la forêt en tant que lieu, c'est le cas dans la Harpe de Birmanie, en tant que lieu possible de ressourcement après des événements traumatiques comme la guerre. Donc, qui sont des enjeux qu'on n'évoque pas par ailleurs dans le festival. Donc voilà, c'est un moment un peu pas de côté pour aller voir, pour ouvrir les perspectives.
Et j'ai une dernière question pour vous. Quels sont les trois temps forts à ne surtout pas louper cette année?
Quel serait le tien, Chloé?
Moi, je dirais la performance poétique de Juliette Thomas. Celle de l'année dernière m'avait beaucoup marquée et j'ai vraiment hâte de découvrir ça.
Oui, c'est vrai que l'année dernière, on avait pleuré.
C'est vrai, elle aussi avait pleuré.
Oui, 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 c'était fort en émotion. Et alors moi, j'ai toujours du mal à choisir un ou plusieurs temps forts à ne pas manquer. Je vais juste dire peut-être un grand temps. On commence le festival à Rennes 2 et puis on le termine à partir de jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, 20, 21, 22 novembre, à l'Hôtel Pasteur qui nous accueille et qu'on remercie chaleureusement. Et dans ce cadre-là, jeudi, vendredi, on a une grande journée d'études qui sera super et très intéressante. Et samedi après-midi, j'invite vraiment tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, à venir à l'Hôtel Pasteur à partir de 14h15, parce qu'on a plein de surprises tout l'après-midi. Ça va être vraiment une après-midi scandée par plusieurs événements, une table ronde, la visite guidée d'une exposition de photographie de l'artiste Anne-Sophie Soudoplatov, la restitution de l'atelier d'écriture qui est mené par Juliette Thomas toute la journée, et plusieurs stands avec des activités. Là, je suis allée à la repro et il y a des étudiantes qui ont fabriqué un jeu de tarot sur la forêt que je suis allée récupérer, qui est magnifique. Et donc voilà, il va y avoir un peu de cartomancie littéraire, il va y avoir des petits ateliers d'écriture poétique. Il y a des stands aussi pour les enfants de dessin. Il y a Sophie Normand qui est une autrice d'albums pour la jeunesse qui sera présente et qui fera des lectures de son album pour les enfants d'un enfant qui a planté des arbres et elle revient sur cette expérience-là. Bref, il y a tout un tas de choses et on termine à 18h par une grande tablée festive, c'est comme ça qu'on l'a appelée, autour de la forêt pour réunir les acteurs culturels du bassin rennais au sens large qui travailleraient d'une façon ou d'une autre avec, sur ou autour de la forêt. Donc l'idée, c'est que chacun vienne un peu tel qu'il est, tel qu'en lui-même ou en elle-même, pour qu'on parle de ce sujet qui nous intéresse en commun, qui est la forêt, et voir ce qu'on peut en faire à partir du prisme de la culture, de la littérature et des arts.
Bien, merci à vous deux pour vos recommandations et pour
merci.
Votre présence.
Merci beaucoup.
Le Festival Transversal se tient à Rennes du 19 au 22 novembre entre l'Université Rennes 2, l'Hôtel Pasteur, le Tambour. L'ensemble des rencontres, ateliers, projections, performances et expositions sont gratuites, parfois sur inscription obligatoire. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du festival.
Merci.
Merci beaucoup.
6 heures avant minuit.
Aujourd'hui, dans sa chronique, ça danse pas mal, et vous? Eva va nous propose, au présent, de sortir un peu de nos sentiers battus. Hors de Rennes, donc, elle nous parle du festival Vortex, qui a lieu jusqu'au 30 novembre.
Aujourd'hui, je vais vous faire voyager un petit peu. Pas très loin, hein, mais pour cette chronique, on va quitter nos contrées rennaises et son triangle ou son CCNRB pour aller jusqu'à Saint-Dominique. Ouais, je vous vends carrément du rêve là en vrai, non ?
Je sais même pas où c'est.
Mais si, vous allez voir, ça va bien se passer.
J'ai hâte.
Figurez-vous, chers auditeurices, qu'au dernier moment, vendredi dernier, je n'ai pas pu aller voir le spectacle à l'ombre d'un vaste détail. Et figurez-vous qu'en fouillant un peu sur notre internet tant aimé pour trouver une nouvelle idée de chronique, je suis tombée sur un festival qui a l'air trop bien, le festival Vortex. Je vous le donne en mille, ça se passe à Saint-Dominique, à 30 minutes d'ici, direction Saint-Malo.
Maintenant, c'est pas si loin, voilà. Ça va.
La 13e édition a déjà commencé, pour tout vous dire. Le dimanche 16 novembre, avec l'inauguration de l'exposition « Des corps au-delà des corps » à la galerie La Fazenda de Combourg. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la programmation du dimanche 30 novembre. Et non, plus d'excuses pour ne pas réfléchir à la possibilité de s'extraire un peu du monde citadin le temps d'un après-midi. Le premier spectacle, Arti Chocolat, démarrera à 14h30 avec la compagnie aux petites valises. Mais là, je laisse la place à la comédienne Céline Rothet qui va vous en parler bien mieux que moi.
Arti Chocolat, c'est un spectacle pour les tout petits. C'est un spectacle qui parle de ceux qui sont pas comme tout le monde et d'une rencontre entre deux enfants qui sont un petit peu différents de ce qu'on imagine que doivent être les enfants. C'est l'histoire de Lily, qui a des parents boulangers, pâtissiers, et Lily, elle aime pas le chocolat. Elle adore les artichauts. Et c'est l'histoire de Tommy. Tommy, ses parents sont maraîchers, mais lui, il aime pas les légumes, et il mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat. C'est une petite histoire très douce, qui parle aussi de fabriquer les choses, son pain, ses pâtisseries, et de cultiver ses légumes, de les faire pousser dans la terre. Et puis d'une rencontre entre Lily et Tommy, ses enfants qui sont pas tout à fait comme les autres.
Vous êtes d'accord ? Ça donne envie de redevenir un petit peu des enfants, non ?
Oui, carrément.
Enfin, moi, je vous le dis, les spectacles dits pour tout petit devraient parfois être prescrits par la sécurité sociale pour les adultes. Ça remettrait certaines choses à l'endroit, j'en suis convaincue. À 15h, on continue, la compagnie La Daenia présentera Mère, au pluriel avec les deux E entre parenthèses, en format inclusif. Parce que pour la compagnie, ce spectacle est un processus organique, vivant, élastique. Il doit permettre d'accueillir des interludes. Ici, un groupe de résidents et résidentes de plusieurs EHPAD de la région aux histoires de vie uniques. Les différences générationnelles et les différences de corps devenant un contrepoint chorégraphique enclin à de belles métamorphoses. Un moment étonnant en perspective. L'après-midi se terminera par une installation performative surprise d'un des danseurs de la compagnie La Daenia, mais avant, à 16h, place à une pièce chorégraphique pour deux danseurs, le flou migratoire de la compagnie Juju. Pièce qui vient interpeller le public sur la question fondamentale de l'accueil des étrangers sur son territoire. Un petit extrait.
Malgré tout ça, moi j'étais fiché chez moi, parce que j'étais un fervent opposant à la politique du président qui vient de sortir, donc la famille Bongo et les Ali et tout ça. Et du coup, moi j'étais fiché chez moi, je pouvais même pas rentrer chez moi, mais je voulais surtout pas me déclarer comme étant demandeur d'asile, parce que j'ai trop envie de danser, j'ai trop envie de travailler.
Vous aurez deviné, je pense, pourquoi j'ai choisi de vous parler spécifiquement du dimanche. Ce beau mélange de genres fait la part belle au mélange, justement. Met en avant ceux et celles souvent invisibilisés ou stigmatisés. Cette journée semble être à l'image de l'essence même de ce vortex, ce tourbillon. Elle célèbre l'ouverture aux autres et la rencontre des cultures par l'art du mouvement. Alors quoi, vous n'avez pas encore pris vos places ?
On y va, Eva ! Merci, Eva ! Pour celles et ceux qui sont intéressés, toutes les informations et le programme complet sont sur le site de la compagnie La Daenia. Donc, CIE La Daenia, ça s'écrit LADAINHA. www.ultrarich.fr. Ce festival organise aussi des ateliers de danse pendant la durée du festival et un autre moment phare aura lieu le samedi 29 novembre, The Vortex Jam, un battle international de break et de hip-hop. Tu peux regarder si on a un message sur le répondeur, Eva, s'il te plaît.
Il y en a.
Il faut cliquer.
J'ai oublié de cliquer.
Clic.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Bon, je crois que c'est vide aujourd'hui, malheureusement. Je vous redonne le numéro pour le remplir, ce répondeur, le 02 30 96 25 35. Et on ne sait jamais, si jamais vous êtes un parent d'un reporter qui nous écoutait tous les jours, c'est peut-être le moment de dire des choses, de s'exprimer. Bref, 02 30 96 25 35. Je vous rappelle aussi que ce mardi 25 novembre, on organise un atelier de création radiophonique en mixité choisie. Donc ça veut dire femmes et minorités de genre. Ça se passe au Diapason sur le campus de Beaulieu, l'université de Rennes. C'est gratuit, ce sera autour de la thématique femmes et sciences et les créations sonores qui seront proposées par les participants de ce jour-là seront ensuite diffusées le 8 mars 2026 pour la journée de lutte pour les droits des femmes. Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un mail à commission-antisexisme@proton.me. Je le rappelle donc, cet atelier est réservé aux femmes et minorités de genre. Je vous dis à demain dans 6h avant minuit, émission spéciale demain en direct du bar La Reine de Cœur pour le festival Culture Barbare. Merci à Wena pour la technique et à demain.
Si, la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de Doha !
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.